Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Cécile Aboulian qui nous accompagne ce soir pour une extenso. Bonjour, bonsoir Cécile.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Effectivement, première séance de la semaine un peu morne, un peu terne. Les volumes sont faibles. Le CAC 40 recule en clôture ce soir de 0,2%. Mais on a déjà un certain nombre d'actualités d'entreprises. On va en parler. La semaine s'annonce effectivement riche et dense. Pas mal de publications à venir encore. Allez, quelle est, parmi les valeurs du CAC qui vont annoncer leurs résultats, quelle est celle au singulier que vous allez particulièrement suivre ?
Celle que je vais regarder particulièrement cette semaine, ça va être Capgemini, qui va publier son chiffre d'affaires T1. Pourquoi ? Parce que c'est notre champion du conseil en services informatiques, qui a déjà des publications qui ont eu lieu. Je pense à Alten, à Sopra, qui ont révélé des croissances organiques plutôt mornes. Parce que c'est vrai que c'est un secteur qui croit par croissance externe, mais aussi par croissance organique. Mais l'organique, c'est ce qu'il faut regarder. Et dans la mesure où c'est l'acteur le plus important, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment il va se situer par rapport à une guidance annuelle qu'il a déclaré entre 0 et 3% sur 2024, sachant que le consensus sur le T1 est plutôt négatif et attend plutôt une décroissance sur ce T1.
Ah oui, c'est quand Capgemini ? C'est demain. Publication demain de Capgemini. On aura aussi demain Air France KLM, Thales. Oh, Téléperformance demain après bourse, sera intéressant. Puis Adidas, Lufthansa, grosse journée demain. Si vous aimez la bière, Carlsberg aussi va publier demain ses résultats. Alors là, on parlait des très grosses valeurs, très bien. Capgemini dans votre scope. Et puis, vous suivez aussi les petites et moyennes valeurs chez Nextenso. Dans cet univers-là, quelle est celle parmi les publications que vous allez particulièrement suivre ?
Alors, celle que je vais regarder cette semaine, c'est celle de Hopscotch, le chiffre d'affaires T1. Hopscotch, c'est une agence d'événementiel de RP qui fait près de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un EBE autour de 15 millions d'euros qui est implanté internationalement, qui procède à des croissances externes et qui fait de la croissance organique, qui a eu des résultats historiques sur 2023. Donc le chiffre d'affaires T1 va être intéressant à suivre. Elle a un momentum plutôt intéressant sur 2024 entre les Jeux Olympiques, le mondial de l'auto, c'est une valeur qui se paye pas cher et du coup ce T1 me paraît plutôt intéressant à regarder.
Hopscotch, jeudi la publication effectivement. Vous rappelle la clôture ce soir du CAC 40, petite baisse dans notre tout petit volume, vraiment très très faible. On sent que la semaine démarre lentement et tranquillement. On aura la Fed à surveiller, ce sera mercredi soir par exemple. Puis un petit mot quand même du 10 ans français, puisque Fitch et Moody's ont choisi de ne pas changer la note de la France, ni même la perspective de la note de la France, la France absoute. Et bien sur le marché obligataire, on a une petite détente sur le 10 ans français, mais à l'image des autres taux obligataires, hein, même détente en Allemagne, en Espagne, en Italie et même aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une journée de détente obligataire. Le 10 ans français vient de passer légèrement sous les 3% à 2,99 en ce moment. Une valeur qui se distingue ce soir en Europe, Philips. Philips, le règlement d'un litige, ça se passe aux États-Unis, effectivement. C'était un litige dans les appareils respiratoires, des appareils défectueux. Et bah, le montant de cet accord pour régler le litige d'1,1 milliard de dollars, ce montant est inférieur aux attentes des analystes. Le titre Philips à Amsterdam gagne 30% ce soir, Cécile. C'est des rachats de short, c'est très technique ou c'est vraiment le réveil de Philips en bourse ?
Alors, ce souci date depuis 2021. Donc, ce sont des poursuites qui traînaient depuis longtemps. Et Philips, du coup, n'avait pas que ça. Aussi, des résultats négatifs depuis 2 ans. Néanmoins, c'est vrai que l'épée de Damoclès d'une amende plus importante était au-dessus de cette valeur. Si on fait un petit calcul, il me semble qu'il y a 60 000 personnes hein, qui ont été dans ce conflit avec Philips. Donc c'est environ un peu moins de 20 000 euros, sachant que les risques, à un moment donné, c'était d'un point de vue médical, c'était de savoir si ce qui était inhalé dans ces respirateurs pouvait donner un cancer. Donc voilà, à chacun verra si finalement la sanction financière est assez élevée ou pas. En tout cas, pour les investisseurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça veut surtout dire que maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux résultats et uniquement aux résultats de Philips et pas que à ce procès qui était très important pour...
C'est une épée de Damoclès là qui se retire, qui s'enlève, qui disparaît et s'évanouit sur Philippe. Plus 29% en clôture, effectivement. Gilles Santacre est avec nous, puis le bureau de boursicoté.com. Est-ce que voilà, cette hausse ce soir dégage un fort potentiel encore pour la suite ou bah voilà, il y a des rachats de short et finalement l'essentiel du rebond est désormais fait, Gilles?
Là, honnêtement, on peut pas tenir compte de ce mouvement comme un pur modèle, je dirais, d'analyse technique. On est sur quelque part une revalorisation du titre qui est liée à une dépense en fait qui n'aura pas lieu. Donc par rapport même, je dirais, à la bougie qui est inscrite aujourd'hui, on voit que on a effectivement, on culmine, hein, on s'est rapproché à des 30 euros et puis finalement on est redescendu. Mais je pense que on va ensuite continuer à évoluer dans une tendance telle qu'elle était auparavant, c'est-à-dire assez neutre voire même légèrement baissière. Je ne pense pas que ce mouvement puisse impulser une nouvelle dynamique juste sur cet événement ponctuel. On serait sur une différence de résultats, ouais. ça changerait peut-être des choses, mais là c'est quelque chose, je pense, qui va rester ponctuel dans la lecture du graphe.
Plus 29, ce titre Philips. Cette question d'auditeur également sur notre fil XBFM Bourse. Il s'appelle Frédéric, cet auditeur Cécile, il vous interroge sur le titre Innate Pharma. On est dans les biotech, Innate Pharma. Que penser d'Innate Pharma? Voilà, question simple. Qu'est-ce qu'on fait d'Innate Pharma en portefeuille?
Alors, chez Inextenso, on regarde les biotech. On a une équipe spécialisée sur les biotech en analyse financière. Donc, ils regardent les sociétés cotées sur ce segment-là. Et effectivement, les consultants, ce qui ressort, c'est qu'Innate Pharma est une société plutôt leader sur les biotech. Pourquoi? Parce qu'elle a des molécules de chimiothérapie basées sur les cellules innées, contrairement aux cellules T, qui sont des cellules innées. Elle a réussi grâce à ça à bâtir des partenariats avec AstraZeneca, 3 essais cliniques en cours, avec Sanofi, 4 essais cliniques en cours sur des cancers du poumon, sur des cancers du sang, et tout ça sur des bases de valorisation qui sont encore tout à fait abordables. Donc c'est une société dans laquelle nos équipes ont tout à fait confiance.
Vous êtes positif plutôt sur Innate Pharma. C'est de la diversification de portefeuille. On le rappelle quand même à tous ceux qui nous suivent et nous regardent. On est quand même dans un secteur extrêmement volatile. Gilles, d'un point de vue technique, Innate Pharma, c'est une valeur qui, oui, a du potentiel devant elle.
Pour l'instant, on est sur une fin de consolidation. On a préservé un support à 2,10 €. Mais honnêtement, il n'y a pas encore assez de mouvement pour justifier d'un éventuel rebond ou d'un éventuel retour à une dynamique haussière. Donc pour l'instant, on reste sur techniquement sur une opinion légèrement négative qui pourrait débouger sur quelque chose au mieux de neutre, mais pas encore assez de conviction pour justifier justement un retour, un mouvement haussier puissant, je dirais.
Frédéric, cet auditeur qui nous a laissé sa question sur le réseau XBFM Bourse, voilà la réponse à cette question, réponse très très complète. Et vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas également à nous interpeller sur nos réseaux, également en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi dans BFM Bourse sur vos écrans. On a aussi cet autre rendez-vous Culture Bourse 15h50 où on répond aussi à vos questions. Ce rendez-vous, vous le retrouvez en replay et en podcast. Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent, donc à retrouver en podcast et en replay sur notre application BFM Business Culture Bourse. Le CAC ce soir recule de 0,2%, mais il y a une valeur qui cartonne à la hausse. Ça fait du bien de le voir progresser, ce titre Atos. Atos, puisque l'État devrait reprendre ses activités stratégiques et souveraines, peut-être pour un montant d'un milliard d'euros. En tout cas, les investisseurs rachètent Atos. Alors, un peu la même question que pour Philippe. Est-ce que c'est un mouvement technique, cette forte hausse ce soir d'Atos en clôture, ou est-ce qu'on est peut-être sur le début d'un réveil plus fondamental? Cécile.
Alors, je pense qu'il y avait une série de mauvaises nouvelles sur Atos. Avec voilà, des pertes depuis 2021, le mur de la dette, 4,6 milliards à fin 2023, des offres qui se retirent en février, Kretinsky, en mars, Airbus, des enjeux sur la technologie française importante. Donc voilà, il était important que le gouvernement se mobilise pour faire quelque chose, sachant qu'il ne se mobilisera pas seul. Et je pense que c'est surtout... plus qu'une opportunité, c'était une nécessité qu'il se passe quelque chose sur ce titre. Et c'est plutôt en cela une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut encore attraper les couteaux qui tombent, pas tout à fait certaine. Néanmoins, c'est intéressant qu'elle se soit positionnée sur Atos.
Bon, ce titre qui rebondit un peu, mais qui revient qui revient pas d'ailleurs. Enfin voilà, même si la hausse ce soir est quand même nette, le titre pour les actionnaires, ceux qui le détiennent, reste une source de douleur, de souffrance, effectivement. Le CAC 40 qui termine ce soir donc en petite baisse. Dernière question sur, ben voilà, on aime bien comme ça aller essayer de récolter des pépites. Est-ce qu'il y a une pépite comme ça, une valeur dont vous vous dites avant les nombreuses publications qui vont arriver cette semaine, ben celle-ci, elle devrait bien performer quel que soit le contexte et ce que les prochains mois nous réservent, Cécile?
Je vais rebondir sur une publication de la semaine dernière, oui. Une société qui s'appelle Guimau, qui est un spécialiste des accessoires pour les jeux, notamment les manettes et les joysticks, et qui s'est également fait un nom sur les platines de DJ. Donc ces marques, c'est Thrustmaster et Hercules. Et la semaine dernière, ils ont publié un chiffre d'affaires en hausse de 28%. Donc c'est une société dont le momentum est intéressant aujourd'hui, qui avait peut-être quelques difficultés après justement un effet de base très, très favorable avec le Covid. Et aujourd'hui, donc, on attend plutôt de la croissance, redressement de la rentabilité. Elle a une trésor net de 20 millions d'euros. Elle se paye en dessous de 4 fois son EBE 2024. Elle a annoncé également qu'elle rachèterait des titres pour les annuler, ce qui veut dire que le placement de sa trésorerie, elle est fait plutôt à ce prix-là dans sa société, ce qui est toujours un signal positif.
Christian Fontaine nous appelle, on est ensemble en direct, il nous appelle depuis le magazine Le Revenu. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Pour répondre, vous aussi Christian, à ces questions d'auditeurs, téléspectateurs, lecteurs aussi de votre magazine Le Revenu. C'est Greg qui nous a écrit à propos du mois de mai qui arrive en bourse. À partir de mercredi, on sera le 1er mai, et il y a ce fameux adage boursier, sell in May and go away. Autrement dit, attention au mois de mai qui est souvent un mois de prise de bénéfices et de ventes sur les marchés. Greg nous demande si cet adage se vérifie toujours.
Eh bien non, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsque vous regardez les statistiques d'Euronext, eh ben, vous voyez que depuis 50 ans, en fait, il y a eu presque autant de bons que de mauvais mois boursiers en mai. Alors c'est vrai qu'il y a quelques exemples historiques. Tout le monde pense à mai 68, moins 8,5%, à mai de 1981, moins 30%. Alors pourquoi donc alors cette mauvaise réputation du mois de mai? Ben c'est vrai qu'au mois de mai, c'est surtout vrai cette année, il y a beaucoup de jours fériés propices à la baisse des volumes. Il y a beaucoup d'appels au marché à des augmentations de capital après les AG, sans oublier bien sûr l'effet de dividendes qui impacte mécaniquement les cours.
Du coup, quel enseignement est-ce qu'on doit en tirer? L'adage a malgré tout la vie dure. Comment est-ce qu'on doit arbitrer là maintenant à l'approche de ce mois de mai?
Alors l'adage à la vie dure, le mois de mai n'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une saisonnalité en bourse qui est très forte, et donc l'été est souvent moins performant que l'hiver, donc peut-être sell in May, donc, mais en tout cas revenir au mois d'octobre. Il y a quelques années, BGC avait testé ce phénomène via un fonds théorique investi uniquement pendant l'hiver. Eh bien, il avait constaté une forte progression, une différenciation importante par rapport au CAC 40 qui était resté investi toute l'année, 114% contre une évolution négative sur la période 2000-2016 pour un investisseur qui restait toujours investi. Donc peut-être attention, prudence au mois de mai, notamment après une belle hausse de la bourse depuis janvier, mais en tout cas revenez en octobre si vous vendez en mai.
Voilà, merci Christian. Cette réponse à Greg qui nous a donc écrit, BFM Bourse à bfmbusiness.fr, Christian Fontaine, le magazine Le Revenu. Bonne soirée Christian, un grand merci à vous, Cécile Aboulian aussi de nous avoir accompagné ce soir, d'avoir répondu vous aussi à ces questions d'auditeurs et téléspectateurs. In extenso nous accompagne régulièrement, puis on remercie aussi Gilles Santacreux à distance depuis les bureaux de boursicoté.com. Bonne soirée Gilles.